Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Tiens, on va par exemple parler d'un dessin animé pour adultes. Fer de lance de la nouvelle chaîne lancée aujourd'hui par Disney+. Elle s'appelle Star. On va revenir sur la carrière exceptionnelle de Daft Punk, le duo qui se sépare après 28 ans. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr. Notre info média autour d'un monstre. En tout cas, c'est ainsi que le voit Samuel Laurent, journaliste au Monde. Il publie un récit, j'ai vu naître le monstre, en l'occurrence le réseau Twitter, terrain d'expression et d'information devenu en partie un réseau où règne la manipulation selon lui et qui peut mettre en danger la démocratie. Ce sont ces termes, il nous expliquera. Et puis nos invités, le producteur Thierry Guillaume de La Belle Aventure qui produit Pékin Express, dont la 14e saison démarre ce soir sur M6 avec des nouveautés, mais également un tournage dantesque sur fond de pandémie de Covid et d'accidents de voitures mortels. Enfin, Éric Emmanuel Schmitt pour son nouveau roman Paradis perdu, 560 pages, et ce n'est que le premier tome d'une série de 8 avec le projet de raconter l'histoire de l'humanité sur 8000 ans, du néolithique à TikTok. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Les audiences dans quelques instants avec vous. Antoine Genton, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias, Antoine.
Une vidéo au succès foudroyant, un candidat de The Voice viré et C8 sanctionné par le CSA.
Mais d'abord, les audiences avec vous Luce Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir.
C'est assez logique, c'est TF1 avec la suite de sa série Je te promets qui se classe en tête. 3 900 000 téléspectateurs qui se maintient à un bon niveau, hein, 19,2% de part d'audience. Ensuite, c'est les rediffusions sur France 2 et M6 qui sont au coude à coude. France 2 devant quand même, 2 367 000 téléspectateurs ont regardé le téléfilm adapté de l'histoire de Patrick Dils, Je voulais juste rentrer chez moi, 10,7% de part d'audience. Et M6, Cauchemar en cuisine, c'est une rediffusion donc parce qu'il n'y a toujours pas d'inédit à cause de la crise sanitaire, 2 280 000 téléspectateurs, 10,6%. C'est à peu près comme la première diffusion en septembre 2020.
Merci beaucoup Luce Bernard.
Culture Média.
Antoine Genton, votre journal des médias avec à la une le succès fulgurant d'une vidéo.
Triste succès puisqu'elle annonce cette vidéo la fin d'un des duos les plus connus au monde. Je suis sûr que vous avez tous les deux dansé sur l'un de leurs titres, Daft Punk.
Oui.
Près de 11 millions de vues pour Épilogue, c'est le titre de cette vidéo de 8 minutes publiée hier après-midi sur YouTube. 11 millions de vues en à peine 24 heures. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, un extrait de Touch, l'un des titres du dernier album des Daft Punk, Random Access Memories, chanté là par des enfants. La fin des Daft Punk, c'est un événement qui est aussi à la une de Libération ce matin et dont les journaux parlent largement hein, dans la presse. Libération avec un titre encore fantastique, on se lève et on se casque.
Et on reviendra sur la séparation des Daft Punk dans la deuxième heure de l'émission. Quels sont les titres indispensables du duo? Réponse avec Angèle Châtelier, ce sera aux alentours de 10h30.
Et puisqu'on parle de YouTube et de millions de vues. Une information encore, Philippe, pour vous dire que le compteur de la chanson de McFly et Carlito,
dont nous parlions hier,
effectivement, dans ce journal, atteint 8,5 millions de vues ce matin. Objectif 10 millions, je vous le rappelle, pour que les deux youtubeurs puissent être reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron.
Et lui soumettre un défi au président de la République. Dans ce journal, il est encore question de réseaux sociaux, Antoine, avec un candidat écarté de The Voice.
The Vivi, candidat à la prestation très remarquée samedi soir, il avait repris Suicide Social d'Orelsan.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ma chemise et ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait.
Voilà, c'est la voix de Vianney que vous avez peut-être entendu derrière celle de Vivi. Vianney, l'un des coachs que le candidat avait choisi de rejoindre, mais leur collaboration n'ira donc pas plus loin. De Vivi a été viré de l'émission. En cause, 5 tweets écrits par le jeune chanteur. C'était il y a 4 ans, il avait alors 17 ans. Des messages racistes et homophobes que des internautes internautes ont exhumé avant-hier, après l'émission, des messages incompatibles avec les valeurs de cette émission. Selon la société qui produit The Voice, ITV, elle s'est dite choquée hier. Elle a donc pris la décision, en accord avec le diffuseur, avec TF1, d'écarter The Vivi, malgré les excuses qu'il a pu présenter sur son compte Instagram dimanche soir. Une décision qui serait illégale, selon l'avocat Jérémy Assous, qui parle même de licenciement abusif. Il le dit ce matin dans les colonnes du Parisien.
La chaîne C8 mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Une décision plutôt clémente du CSA compte tenu du passif de la chaîne qui a déjà été sanctionnée par le régulateur à plusieurs reprises. Mise en demeure donc pour une publicité clandestine. C'était dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Cyril Hanouna avait fait la promotion d'une compagnie aérienne fantôme, Skyline Airways. C'était en septembre 2019.
Loana, qui était l'invitée de « Touche pas à mon poste » il y a deux semaines, a été hospitalisée hier.
Hospitalisée dans un état grave d'après Nice Matin. L'ancienne candidate de Loft Story et l'ancienne vainqueur de Loft Story a été admise dans un établissement du Var hier. Aucune certitude sur les raisons qui ont conduit à son hospitalisation. Certaines sources évoquent une overdose.
Et puis le focus programme du jour, Antoine, c'est un documentaire édifiant sur Arte.
La fabrique de l'ignorance, titre éloquent. Le film raconte comment certains industriels manipulent la science pour que les dirigeants politiques n'aient pas tous les éléments en main et pour ainsi éviter des réglementations contraignantes ou des poursuites judiciaires. Prenons l'exemple du tabac dont parle le documentaire. Vous allez comprendre, dans les années 50, des scientifiques publient de plus en plus d'études qui prouvent la dangerosité de la cigarette, qu'elle aggrave les risques de cancer du poumon notamment. Quelle est alors la riposte des grands industriels du tabac? Eh bien, semez le doute en lançant secrètement de nombreuses études scientifiques sur d'autres causes probables du cancer du poumon. Même le jus de tomate devient un facteur de risque. Résultat, ils parviennent ainsi à retarder de plusieurs dizaines d'années la législation autour de la cigarette.
On sourit, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le documentaire?
Oui, des industriels ont développé des stratégies similaires dans d'autres secteurs, comme les néonicotinoïdes, insecticides qui tuent les abeilles, mais aussi le bisphénol A présent dans les plastiques ou encore le changement climatique. Les industriels utilisent même parfois les services de scientifiques qui portent une parole fausse pour éloigner la vérité scientifique, toujours au détriment de la santé publique. Ce que fait ce documentaire, c'est qu'il interroge notre rapport à la science, à la connaissance, et ce, en pleine pandémie. Mais d'après le philosophe et conseiller scientifique du documentaire, Mathias Girel, il n'est pas question de mettre en cause la communauté scientifique, bien au contraire.
Le but du documentaire, c'est surtout pas d'appeler au complotisme à l'égard de la science, ni même à la défiance. C'est de mesurer à quel point la science, la connaissance sont précieuses dans nos vies. Et on le voit bien à l'occasion de la Covid, hein, la manière dont on va se sortir ou non de la situation, plus ou moins vite, dépend du progrès scientifique, de l'avancée de la science, qui est un bien commun, qui est précieuse. Et donc, c'est une raison de plus pour s'intéresser au cas où il y a des dysfonctionnements, des instrumentalisations, des occultations.
À la fabrique de l'ignorance, déjà en ligne sur le site arte.tv. Il sera diffusé ce soir à 20h50, documentaire de Franck Cuvelier et Pascal Vasselin. Et puis encore quelques mots pour vous annoncer le lancement aujourd'hui de Star. On en avait parlé il y a quelques jours dans ce journal. Star, c'est la nouvelle offre de Disney+, une offre destinée aux jeunes adultes avec de nouveaux contenus, des films, des séries. C'est un peu plus cher, hein, 2 euros de plus par mois pour un abonnement qui sera donc de 8,99 € si vous y souscrivez. Et puis on y reviendra un peu plus tard dans l'émission.
Exactement, avec Margot Barallon qui va nous présenter un dessin animé pour adultes. Merci Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve demain tous les deux
oui,
pour un
demain.
Nouveau journal des médias et les audiences. À suivre, notre info média du jour avec un témoignage à propos du réseau social Twitter. Les politiques et les journalistes ont tendance à beaucoup l'utiliser, sauf que vous allez l'entendre. Ce réseau a ses limites. Nous en parlons avec le journaliste Samuel Laurent, auteur de ce livre « J'ai vu naître le monstre ». C'est sous-titré « Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» A tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est un récit personnel qui témoigne à la fois des quelques bienfaits et des nombreux ravages d'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, particulièrement auprès des journalistes, Twitter. Formidable terrain d'expression devenu en partie un champ de boue, un lieu virtuel où les injures, les menaces sont devenues légion, un lieu également où se diffusent de fausses informations pouvant mettre en danger la démocratie. En tout cas, c'est votre thèse. Bonjour Samuel Laurent.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce récit « J'ai vu naître le monstre », livre publié aux Arènes, Le Monstre et Twitter. Ce réseau que vous connaissez bien, vous avez ouvert un compte dès Son lancement en France, c'était en 2008. Vous étiez alors journaliste web pour le Figaro, puis vous avez continué à l'utiliser de plus en plus, même quand vous êtes parti pour le journal Le Monde, pour qui vous travaillez encore. Avant de parler de votre livre et de ce qu'il contient, je voudrais votre réaction à une nouvelle polémique liée à Twitter, et dont on vient de parler dans le journal des médias d'Antoine Genton. Un candidat de The Voice a été écarté de l'émission pour des tweets racistes et homophobes écrits quand il avait 17 ans, il y a 4 ans, il en a 21 aujourd'hui, et exhumé ses tweets par des internautes. Qu'est-ce que cette affaire dit de Twitter, si tant est qu'elle dise quelque chose de Twitter aujourd'hui ?
Elle dit beaucoup de choses de Twitter. Elle dit déjà sa place centrale aujourd'hui, effectivement, dans l'actualité. C'est-à-dire qu'il suffit de mesurer, ça c'est un cas, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, si on fait le tri dans les informations de la journée, énormément se sont sinon déclenchés sur Twitter, en tout cas se passent en partie sur Twitter. La polémique en ce moment, par exemple, sur les cantines végétariennes à Lyon ou celle sur l'islamo-gauchisme, entre guillemets, ce sont des choses qui s'expriment sur Twitter. Et c'est bien la preuve que ce réseau, s'il a une place centrale aujourd'hui dans le débat public, et une place qui sont doute est un peu disproportionné. Et sur ce candidat-là, ça dit autre chose, ça dit aussi le côté implacable des réseaux sociaux qui sont effectivement terribles parce que c'est une forme d'écriture éphémère, Twitter, en tout cas ça devrait l'être. Vous êtes là, vous écrivez un petit truc de 180 signes, d'autant plus quand vous avez 17 ans, que vous êtes adolescent. Mais 10 ans après, on peut retrouver ces archives et vous les remettre en face de la figure avec des conséquences parfois graves. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Il y avait eu le cas de Menel il y a quelques années également dans The Voice, dont on avait exhumé aussi des posts Facebook pour le coup.
C'était elle-même qui avait décidé de quitter l'émission, oui. À la différence de c'est Vivi, vrai. Ce rappeur-là. Et aussi, ça pose aussi une autre question. C'est quand il écrit ses tweets, il a 17 ans et la loi n'est pas la même suivant qu'on est ou non majeur ou mineur.
Absolument. Après, c'est un choix de la production que moi, j'aurais du mal à commenter. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un peu problématique, surtout pour cette génération qui grandit avec les réseaux sociaux et qui, du coup, a des textes comme ça publiés en ligne très jeune. Enfin, moi, j'aurais pas forcément envie qu'on relise ce que j'ai pu écrire à 16 ou 17 ans. Je pense que ce serait pas terrible. J'aurais surtout honte, je pense. Ouais. Je pense pas avoir écrit des trucs racistes.
Mais pour les avoir lus, je vais pas les répéter ici, mais c'était spécialement homophobe, avec même des appels au viol. C'est quasiment indécent à lire. Alors, à parler de votre livre, Samuel Laurent, j'ai vu naître le monstre. Naître mais pas grandir. Est-ce qu'il est en train de grandir, ce monstre Twitter ?
Il est en train, en tout cas, il a atteint une espèce de maturité qui en fait vraiment le centre aujourd'hui. On l'a bien vu avec Trump, notamment récemment, le centre de l'expression et du débat public, ce qui est quand même un problème parce que Twitter, c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent. Pour gagner cet argent, son but, c'est pas de faire des débats de la meilleure qualité possible, c'est de capter l'attention des gens le plus possible pour qu'on y soit le plus possible.
Ouais, ce qu'on appelle l'économie de l'attention.
Ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et du coup, bah, vous êtes effectivement dans un système où Twitter favorise beaucoup, parce que c'est une expression brève, parce que c'est en temps réel, etc., les clashs, les quand la culture de l'opposition en fait frontale et de la bagarre quelque part.
Je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'était pas comme ça au début. Vous êtes sur Twitter depuis quand ?
Depuis 2008, donc depuis presque les débuts en France.
Vous y êtes inscrit pour quelle raison ?
Au départ, je voulais...
Parce que c'était votre métier ?
Parce que c'était mon métier, parce que c'était ma génération que je m'intéressais à la technologie. Et puis à l'époque, pour les rédacteurs, moi j'ai commencé sur le web. C'est vrai qu'on était devant un écran la plupart du temps. C'était aussi un moyen, une récréation, un moyen de communiquer avec d'autres gens, de faire des blagues, de s'amuser. Et il y avait un peu un esprit au début de Twitter, un peu potache, un peu rigolo, de gens un peu d'entre-soi. Et puis rapidement, c'est devenu un réseau beaucoup plus politique, notamment en 2000, quand il y a eu la campagne de 2012, avec beaucoup de militants qui sont arrivés dessus. Et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui est devenu de plus en plus sérieux et de plus en plus le royaume des gens qui ont des choses à dire, des indignés, des militants, des gens qui protestent. Et à la fois, ça devient ça aussi parce qu'il y a énormément de journalistes dessus. Donc c'est vrai que vous avez toutes les chances d'être entendu si vous vous exprimez sur Twitter, beaucoup plus que sur une autre plateforme. Et puis les politiques aussi sont venus en masse sur Twitter parce que ça leur permet de... Ils ne publient plus de communiqués de presse aujourd'hui, ils publient des tweets. Mais du coup, eux aussi, vous pouvez les toucher beaucoup plus facilement que Facebook, par exemple.
Avec Nadine Morano qui a confondu... Non, Christine Boutin qui a confondu hier Jésus sur la croix avec Jésus, le footballeur.
C'était assez magnifique. Oui.
Twitter fut un plaisir, une drogue, écrivez-vous. Comment êtes-vous passé du plaisir à l'addiction ?
Je pense que le problème, c'est que Twitter est addictif, c'est-à-dire que sur Twitter, le jeu, c'est d'avoir un message partagé, de se faire en sorte que le message qu'on écrit soit le plus partagé possible. Donc c'est un petit jeu à chaque fois, de trouver un petit jeu de mots, une petite blague, une petite formule rigolote, et on est content quand on voit que son message est très partagé, on se dit « Ah super, j'ai fait un bon jeu de mots, j'ai fait une bonne blague ».
Vous, c'était quand ? Dès le début, vous êtes devenu accro ?
Oui, dès le début quasiment. Après, Twitter, il faut reconnaître que c'est un outil qui est assez intéressant, notamment pour des journalistes, parce que ça permet de faire une veille informationnelle quand même très efficace. Mmh. Et puis, c'est un outil qui nous permettait de briller, de sortir un peu du côté, quand on est journaliste web, on fait beaucoup de réécriture de dépêches, de choses qui ne sont pas très marrantes. Ça permettait aussi de faire des choses un peu plus rigolotes, de s'amuser, de donner son avis, sans doute trop d'ailleurs à l'époque, sur beaucoup de choses, sur l'actu qui se passait.
Mais évidemment, si vous publiez ce livre, c'est que Twitter n'en est pas resté là. Sont apparus les insultes, les injures, les menaces. Vous avez dit que ça peut presque dater à la campagne présidentielle. Vous racontez les indignations, parfois individuelles, souvent collectives, sans que les utilisateurs en aient forcément conscience. Je vous cite, sur un réseau social, la meute, la foule, n'a jamais conscience qu'elle en est une. Est-ce que Twitter est conçu pour cela, pour accueillir, faire grandir ses colères, ses indignations ?
Alors, est-ce qu'il est conçu pour ça au départ ? Je ne sais pas. En tout cas, il est devenu effectivement un vecteur de ça. Le grand classique, c'est que vous allez faire exister quelque chose à force de le détester. Et c'est-à-dire, vous en cherchez un tweet de quelqu'un qui dit quelque chose de choquant, et puis tout le monde va s'indigner. Mais du coup, tout le monde va propulser le tweet qui va être vu par plus en plus de gens qui vont s'en indigner, etc., etc. Et ça fait boule de neige, et ça fait en fait apparaître aussi des épiphénomènes qui, quelque part, finalement, on ferait mieux de les laisser dans leur coin. Et il serait vu par moins de monde que s'il n'y avait pas cette espèce de torrent qui accompagne ces indignations et qui souvent contribue à publiciser finalement ce dont on s'indigne.
Le harcèlement, vous en parlez, quelques dizaines de messages d'injures en 2012 qu'on pouvait trouver ici et là, plusieurs milliers en 2019, soit par vague, soit au compte-gouttes. Est-ce qu'on peut s'en protéger ?
On peut s'en protéger en s'exprimant moins. Après moi les derniers harcèlements que je raconte donc en 2019, ceux qui ont fait que j'ai quasiment arrêté ce réseau, en tout cas arrêté de m'y exprimer, c'est vrai que je m'exprimais déjà plus beaucoup quoi. C'était pas suite à des tweets que j'avais pu faire où je donnais mon avis, c'était vraiment suite à des articles qui avaient déplu en l'occurrence aux partisans de la majorité LREM, qui nous sont tombés dessus par vagues effectivement de centaines et sur des semaines. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire que s'en protéger c'est soit quitter complètement Twitter ou vraiment arrêter sa présence, soit filtrer très fortement ce qu'on reçoit comme message, mais du coup on perd quand même beaucoup de l'intérêt du réseau. Ça devient vraiment une machine à publier juste des communiqués ou à dire j'ai fait tel article, faire un peu de pub. Donc ça perd un peu de son charme quoi, c'est-à-dire que l'objet même de Twitter c'est quand même pas ça.
Vous n'avez pas arrêté totalement Twitter ?
Je continue à le regarder beaucoup parce que malheureusement ou heureusement, c'est encore une fois très difficile pour un journaliste de pas y être.
Je veux dire le sens de ma question. Vous écrivez quitter Twitter, c'est un peu comme arrêter de fumer, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Je ne vais pas vous demander à combien de paquets vous êtes par jour, mais vous pourriez aussi créer un compte sous un autre nom que le vôtre.
Tout à fait, ouais. Alors après, ça fait presque 2 ans maintenant que je ne m'y exprime plus du tout, donc je suis relativement plus eu de polémique. Mais c'est vrai que je pourrais complètement fermer mon compte et me créer un compte anonyme et me contenter de ça. Bon, je continue avec le mien parce que ça me permet aussi de faire un peu de pub sur mes articles de temps à autre, hein, mais c'est vraiment minimal.
Et pour votre livre publié aux Arènes, j'ai vu naître le monstre sous-titré « Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» Quel déclic ? Qu'est-ce qui vous a fait vraiment arrêter Twitter ? On en parle juste après ça avec Samuel Laurent. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Samuel Laurent, journaliste au Monde, ex-journaliste média au Figaro. Il écrit ce livre aux éditions des Arènes. J'ai vu naître le monstre. C'est sous-titré Twitter va-t-il tuer la démocratie ? Vous avez quitté Twitter, pas tout à fait quitté, mais vous êtes vraiment mis en recul. Et le déclic pour vous, ce fut le 2 mai 2019. C'est au lendemain d'un incident lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Des manifestants étaient entrés dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le ministre de l'Intérieur de l'époque parle d'une attaque. C'en était pas une. C'était, son nom m'échappe à l'instant, Christophe Castaner. Et vous décidez d'enquêter pour comprendre ce qui s'était passé. Vous le faites en direct, c'est-à-dire que vous racontez sur Twitter ce que vous découvrez au cours de vos recherches. Et là, avalanche d'injures.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette bataille de récits qui peut se construire sur Twitter aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, donc à l'époque, moi je dirigeais Les Décodeurs, qui est un service qui fait de la vérification factuelle. Tout le monde affirme, les partisans de la majorité, et notamment le ministre, disent les manifestants sont rentrés dans l'hôpital, ont mis en danger les patients, ce qui est faux. En fait, ils sont rentrés dans la cour, c'est immense, la Pitié-Salpêtrière, et il y a quelques personnes qui se sont réfugiées dans un bout de cour, sans jamais rentrer dans un bâtiment. Et les partisans de la majorité vont alimenter ce récit du ministre en essayant de construire quelque chose sur ces manifestants violents qui sont rentrés dans l'hôpital. Et quand on leur donne tort et qu'on dit non, c'est pas ce qui s'est passé, bah ils sont pas contents. Donc ils viennent nous le dire de manière assez virulente. Et puis on se décide, parce que ça fait un moment qu'on a ce problème de militants très virulents pour la majorité, qu'on a vu apparaître avec les Gilets jaunes, d'enquêter sur eux. Et c'est ça en fait qui va les rendre complètement fous, c'est que je vais me mettre à enquêter sur le fait qu'il y a en amont de ces groupes une organisation. Ils vont sur des groupes privés, sur des messageries comme Telegram, et ils se coordonnent, ils se donnent des signes. Ils se disent, tiens, aujourd'hui, il faut qu'on vise machin ou faut qu'on vise truc. Parce qu'il a dit tel. Voilà, c'est ce qu'ils appellent de la riposte.
C'est informel ou c'est organisé à l'intérieur même d'un parti ?
Non, c'est organisé à l'intérieur même de LREM. Et je tombe sur des groupes où il y a des députés comme Aurore Berger qui participent, où l'idée, c'est de piloter ce qu'ils appellent donc la riposte, donc d'aller notamment cibler des journalistes qui disent des choses qui leur déplaisent.
Et alors là, ils disent quoi sur vous ?
Et bah là, sur moi,
parce
ça devient...
Parce qu'ils ne se contentent pas de dire que votre information est fausse.
Non, évidemment. Donc, ils disent sur moi que je suis vendu, que je suis pourri, que je suis mélenchoniste, que je suis séditieux, que je suis un mauvais journaliste. Et puis surtout, ça dure, ça dure, ça dure. Et c'est dans des volumes que j'ai rarement connus. C'est-à-dire que j'ai connu, c'est pas la première fois que je me fais harceler sur Twitter en 2019, évidemment, hein, en y étant depuis bientôt 10 ans. J'ai déjà eu des militants d'extrême droite, d'extrême gauche qui me sont tombés dessus. Mais c'est vrai que jamais avec autant d'ampleur, jamais autant de tweets. Je compte que notamment sur une journée, je crois que j'en arrivais à plus de 6000 mentions qui me tombent dessus de la part de partisans de la majorité. Parce que c'est des gens qui aussi multiplient les comptes pour faire masse, ont des techniques comme ça pour... Et c'est vraiment du harcèlement qui devient du coup pénible à vivre, en fait. C'est
vraiment, jusqu'à quel point ?
Jusqu'au point où je finis par en faire un mini burn-out, où vraiment j'en peux plus, j'en ai marre. Je fais une crise de colique néphrétique, un calcul rénal, qui est un classique qui paraît des gens stressés, enfin des hommes stressés précisément. Ouais. Et je dois prendre quelques jours d'arrêt maladie parce que je suis vraiment au bout du rouleau par rapport à ces histoires, quoi.
Et comment se fait-il que ce sont plutôt des gens sensés, vous venez de citer Aurore Berger qui est députée de la République, comment se fait-il que le déni, la preuve de ce que vous avancez ne suffise pas à faire taire ce torrent de boue ?
Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est tout le problème quand on parle de post-vérité ou de crise de la vérité, c'est qu'effectivement aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plus la vérité, c'est imposer son récit.
Je veux dire le sens de ma question. Ça, je l'ai entendu beaucoup de fois, mais je pensais que c'était l'apanage des extrêmes. Je ne pensais pas que ce soit le parti majoritaire à qui on puisse reprocher la même chose qu'à l'extrême droite ou à l'extrême gauche.
Je pense qu'il y a une forme de course aux armements, c'est-à-dire que si les autres le font, vous êtes obligé, vous aussi, d'avoir votre armée de militants, finalement, et de rentrer dans cette bataille de récits. Et je pense qu'il y a une peur de la perdre. Là, en l'occurrence, c'était face aux Gilets jaunes. Il fallait faire quelque chose pour la bataille de l'opinion, on va dire. Et donc, cette bataille, elle passait notamment par avoir sur les réseaux sociaux une armée de partisans. Ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est qu'il y avait énormément de comptes qui se sont créés au moment des Gilets jaunes, un mois après, ou alors qui ne tweetaient plus du tout et qui se sont remis à tweeter, et qui d'un coup se mettent à tweeter frénétiquement pendant des mois et des mois sur un seul sujet qui est tapé sur les Gilets jaunes, comme des sourds, ce qui montre bien qu'il y a vraiment une forme d'instrumentalisation.
Ce sont les mêmes textes, ce sont des copier-coller, ou est-ce que chacun réécrit sa petite version ?
Il y a des éléments de langage, on voit apparaître des éléments de langage communs. Il y avait notamment une image de manifestants qui était montée sur une guérite de l'hôpital qui m'a été envoyée des dizaines de fois par des dizaines de comptes différents en quelques minutes, ce qui montre bien qu'il y avait une organisation en amont. Et il y a clairement des éléments de langage, c'est-à-dire qu'ils peuvent les adapter à leur sauce, ils copient-collent pas forcément texto, mais on voit bien qu'en amont, il y a des groupes sur lesquels ça s'organise.
Voilà, et comme on parle ici avec un masque, je précise que vous avez bien dit des dizaines de comptes.
Oui, tout à fait.
Qui vous l'envoyez.
Oui, non,
vous aviez bien prononcé, mais je voulais
la précision est nécessaire.
Qu'on ne refasse pas naître une nouvelle polémique qui n'aurait pas lieu d'être. Je voudrais vous faire écouter le témoignage d'un journaliste comme vous. Il s'appelle Sylvain Lapoix. C'est lui qui, le soir des attentats du 13 novembre 2015, a lancé sur Twitter le mot dièse porte ouverte, ou le hashtag porte ouverte, pour que des gens puissent trouver refuge dans le quartier de Paris où les attaques étaient menées. Pourquoi je le montre ? Parce qu'il peut y avoir un usage plus modéré de Twitter. Sylvain Lapoix était l'invité d'Europe 1, 8 jours après, et voici ce qu'il disait de Twitter.
Fondamentalement, il y a une confusion qui est souvent faite, c'est qu'on considère qu'on va sur Twitter par défaut. Alors qu'en fait, non, c'est par qualité. C'est parce que c'est un endroit où on peut parler à n'importe qui. Quand on cherche de la solidarité, quand on est égaré dans une ville qu'on ne connaît pas ou en panique tout simplement, on va trouver et on va envoyer un message à n'importe qui. Et ce n'importe qui, c'est des centaines de milliers de personnes. Et là, on a vu s'exprimer absolument tous les sentiments de manière spontanée et justement sans filtre, sans attendre que les médias, les prescripteurs et autres ne choisissent ce qui était valide, légitime ou pas. Donc on a vu de tout. On a vu de la solidarité, on a vu des blagues dès le lendemain et on a vu absolument tous les sentiments qui pouvaient émerger dans ce genre de situation.
Pour paraphraser Sylvain Lapoix, s'adresser sans filtre à n'importe qui, ça peut également avoir du bon.
Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les réseaux sociaux sont bons à jeter à la poubelle. Si on prend des choses comme MeToo, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose de très puissant qui peut libérer une parole et Twitter, pour ça, est un outil intéressant. Mais encore une fois, il est intéressant parce qu'il permet d'interpeller des journalistes, des politiques qui sont tous dessus et qui sont très attentifs à ce qui s'y passe. Donc évidemment, c'est des choses qui peuvent être très positives, ça peut être aussi parfois moins. Mais toujours est-il que ce qu'il faut voir, c'est qu'on donne vraiment une place très centrale à ce réseau dans le débat public et peut-être trop centrale. Notamment, c'est une autre réflexion que je soulève dans le livre, si on n'a pas vu venir les Gilets jaunes, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient beaucoup sur Facebook pour s'organiser et que Facebook, les journalistes, ils sont beaucoup moins actifs et surveillent beaucoup moins ce qui s'y passe.
Place centrale, quel poste plus éminemment surveillé que la présidence de la République aux États-Unis. Vous consacrez un chapitre à Donald Trump. Le président était un troll, c'est le titre de ce chapitre. Et vous dites qu'avec lui, c'est Twitter et sa culture qui accèdent au pouvoir avec toute la mauvaise foi, toute la hargne, tout le délirium propre au réseau social. Pourquoi est-ce que que Twitter a attendu la toute fin de son mandat pour réagir. Ce que je précise que le réseau a d'abord signalé certains tweets l'automne dernier avant de suspendre le compte de Trump seulement le mois dernier.
Parce que Twitter, comme beaucoup de réseaux sociaux, mais c'est particulièrement vrai pour lui, n'a jamais voulu prendre en compte cette question de la modération. Il n'a jamais voulu dire qu'il était un éditeur, c'est-à-dire qu'il avait le devoir de veiller à la qualité de ce qu'il
n'a jamais voulu jusqu'à la toute fin.
Voilà, jusqu'à la toute fin, où finalement ils l'ont fait de manière assez brutale, sans qu'on comprenne d'ailleurs trop pourquoi à ce moment-là. Alors, il y avait eu les événements du Capitole, mais effectivement, comme vous le disiez, ils signalaient depuis des mois ces tweets comme faux. Pourquoi ils n'ont pas pu faire une riposte plus graduée? Pourquoi ils n'ont pas réfléchi? Pourquoi ils n'ont pas contacté la Maison-Blanche? Enfin, on ne sait pas vraiment, et c'est tout le problème de ces réseaux, c'est qu'effectivement, ça se décide dans le secret d'un bureau quelque part en Californie.
Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut faire le ménage? Est-ce que c'est à Twitter de faire le ménage? Ou est-ce que c'est aux démocraties? On arrive au sous-titre et au cœur de votre enquête et de votre réflexion.
C'est, je pense, la grande question. C'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force qui doit se jouer entre État et GAFAM. En ce moment, c'est le cas en Australie, où vous avez Facebook qui est dans un bras de fer avec la presse australienne, qu'il est en train de perdre d'ailleurs, Facebook, puisque donc Facebook avait dit qu'il supprimait qu'il empêchait les journalistes de publier des choses sur sa plateforme. Et puis finalement, Facebook est en train de revenir sur sa décision. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui on a privatisé ces espaces publics au profit d'entreprises dont le but, encore une fois, n'est pas de créer un débat public sain, il est de maximiser des profits.
Votre livre est sous-titré « Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» Est-ce que c'est une question rhétorique ou est-ce que le risque, selon vous, est bien réel?
Je trouve qu'en tout cas, il en a déjà changé le visage, alors pour le meilleur ou pour le pire, hein. On évoquait MeToo qui est plutôt le meilleur, et puis Trump, c'est peut-être le pire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces espaces sont totalement sujets à manipulation, donc ça peut être par des partisans de la majorité, mais ça peut être dans d'autres cas par des puissances étrangères, et par des lobbies industriels, etc. Il y a le cas, par exemple, sur le glyphosate, on a pu démontrer qu'il y avait des comptes qui agissaient pour le compte de lobbies ou qui arrivaient à entraîner des communautés pour aller défendre le glyphosate coûte que coûte. Donc ça pose quand même cette question de la sincérité des débats sur ces réseaux.
D'un mot, vous êtes inquiet pour l'élection de 2022?
Oui, parce que je pense que Twitter va jouer un grand rôle là-dedans et que de manière générale, la désinformation et le complotisme sont des choses qui sont vraiment en train de monter, qui risquent de ne pas redescendre d'ici 2022. Et je crains qu'on soit beaucoup, beaucoup dans cette rhétorique-là. Ouais.
Merci beaucoup Samuel
Merci
Laurent. J'ai vu naître le monstre. Twitter va-t-il tuer la démocratie? C'est publié par les éditions Les Arènes. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va parler de la nouvelle saison hors norme. On le dit souvent, mais là, elle l'est vraiment totalement. La 14e saison de Pékin Express. Vous allez l'entendre, les conditions de tournage ont été totalement chamboulées par la pandémie mondiale. Et pas seulement par elle. Nous sommes avec le producteur de Pékin Express, Thierry Guillaume. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Thierry Guillaume.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes producteur de télévision au sein de Label Aventure Productions et vous êtes l'heureux producteur de Pékin Express. La 14e saison démarre ce soir à 21h. Quand je dis heureux, c'est juste une formule, hein, parce que vous revenez de loin, à tous les sens du terme. Vous avez tourné à l'autre bout du monde, en pleine crise du Covid, avec des changements de date, de lieu, on va y revenir. Mais la 14e saison, quoi qu'il en soit, de Pékin Express, toujours présentée par Stéphane Rothenberg, démarre ce soir. Il s'agit toujours de parcourir 10 000 km avec 1 euro à dépenser par jour. Mais du point de vue de la mécanique, vous avez apporté deux grosses nouveautés. D'abord, la voiture bonus. C'est quoi la voiture bonus?
Alors, la voiture bonus, on a imaginé cette nouvelle règle du jeu parce qu'on a choisi une route où il y a très peu de circulation. On démarre en Ouganda. Et là-bas, il y a 80% de pistes et pas encore de routes goudronnées. Donc, il y a moins de véhicules. Et on s'est dit que pour cette saison où le stop allait être difficile, c'était un beau cadeau pour un binôme. Donc, la voiture bonus, c'est une voiture gratos pendant 2 heures ou 1h30 avec un chauffeur qui doit pouvoir permettre à un binôme de prendre l'avantage sur les autres. Donc alors, c'est une nouveauté pour cette saison. Ouais.
Que faut-il faire pour la voiture bonus? Il faut arriver dans les 4 premiers, mais en plus avoir de la chance qu'il y ait un tirage au sort.
Exactement.
Et puis, la nouveauté la plus frappante, c'est vraiment jubilatoire. Moi, j'ai eu la chance de voir la première émission qui va passer ce soir. Les participants atterrissent donc en Ouganda. Et là, énorme surprise.
Dans l'avion, ils sont assis confortablement. Et sur l'écran qui se trouve juste en face d'eux, il y a Stéphane Rothenberg qui leur fait une annonce et qui leur fait découvrir que la course va démarrer directement dans l'avion. C'est la première fois qu'on fait ça.
C'est-à-dire qu'ils sortent de l'aéroport et ils courent et ils ont chacun leur grosse valise.
Ça, c'est une grosse nouveauté aussi. On ne leur a pas donné de sac à dos cette année. Donc, ils démarrent avec leur valise à roulettes pour certains. Les roulettes ne vont pas durer longtemps. Mais c'est la première fois qu'on leur a fait cette surprise et ça donne des scènes plutôt cocasses.
Et la dernière, parce que maintenant, ils sont prévenus. Ils vont...
Ah ouais, alors tous les ans, on essaye d'imaginer des trucs nouveaux pour les surprendre. Mais là, cette année, ça a
bien marché. Et là, ils ont des grosses valoches. Et quand c'est des candidats filles, c'est encore plus jubilatoire. Chacune a sa technique pour porter ses grosses valises de X kilos.
Exactement.
Cette 14e saison s'appelle Sur les pistes de la Terre rouge, la couleur de la piste. L'animateur Stéphane Rothenberg et les candidats n'en sont toujours pas revenus.
C'est au petit matin que l'avion se pose enfin sur les terres rouges ougandaises.
On a de la verdure de partout, les routes sont un peu rouges.
Les candidats évoluent sur les pistes rouges africaines. Sur les pistes rouges d'Entebbe, Florent et Noël sont premiers. Les candidats évoluent à pied, avec leurs valises, sur les pistes rouges africaines.
Même si ces routes sont pleines de trous, c'est leur
charme. Mais la terre rouge, c'est beau.
Voilà, on le saura que c'est rouge. Qui sont les candidats cette année? Comment vous les avez choisis? Comme d'hab,
alors, si ouais, j'ose dire. Comme d'hab, mais c'est le casting, c'est une grosse partie de notre travail. Ça dure trois mois et demi. On a chaque année environ 40 000 dossiers de candidature. Et on essaye toujours de trouver des personnages, des profils différents, des histoires différentes, interbinômes. On a par exemple cette année un père, le binôme qu'on a appelé le père Chic et la fille Choc, un père et sa fille. On a des candidats belges, on a des inconnus, deux candidats qui ne se connaissent pas, qui vont faire toute la route ensemble. Enfin, c'est un long process et on essaye de trouver des profils différents chaque année pour surprendre les téléspectateurs.
Il y a des collègues catalans, les frères Fétard, une tante et sa nièce sont les Belges. Et puis, comme toujours, deux personnages qui ne se connaissent pas et qui se découvrent dans l'avion. Là, il y a Choc de génération et aussi Choc de culture. C'est Sabine, elle a 50 ans, elle est prof de musique classique, elle est clarinettiste. Et Loïc, c'est un black de 33 ans, je le dis parce qu'on ne voit pas sa couleur de peau à la radio, qui rêve de devenir une star du rap, très sympathique. Sabine aussi, elle est assez active, sauf que Loïc n'est pas un grand sportif, mais il est très 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 dirigiste. Et dès la première épreuve, il s'agit de traverser un lac à la rame, et on sent que leurs deux caractères ne vont pas matcher.
Loïc, tu regardes l'eau, tu recommences.
Mais c'est parce que je me concentre sur mon geste.
Tu vas concentrer toi sur l'horizon. Et Sabine, je te jure, là tu fais comme si tu pagayais toute seule, alors que tu n'écoutes même pas ce que je te dis. Regarde, là on va faire que du comme ça. Si tu mets la rame par là, bah dis-le-moi, comme ça j'anticipe.
On est bien là?
Pas bien du tout.
Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas ce qui va pas. On avance. On va pas vite, hein. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de moteur.
Mais je te parle pas d'aller vite, Sabine. Je te parle juste que j'en ai marre d'avancer comme ça. C'est tout. La Sandrine, on dérive.
Sabine.
Alors déjà, il connaît pas son nom. Et il y a une autre séquence au bord de la route où Loïc s'énerve. Il crie à Sabine, mais arrête de crier! Alors que c'est lui qui hurle, vous faites exprès. Vous êtes comme les petits garçons ou les petites filles qui mettent des insectes dans une boîte.
Exactement, mais parfois, les binômes qu'on assemble finissent par s'entendre remarquablement bien. Ouais. Parfois,
et là, le producteur que vous êtes est déçu.
Non, pas forcément.
Hitchcock disait, un bon film, c'est un bon méchant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interaction entre les personnages.
Oui, mais l'évolution des personnages, c'est aussi un truc intéressant dans une histoire. Et parfois, les binômes d'inconnus finissent par bien s'entendre. De toute façon, ils ont un objectif commun. Aller le plus loin possible ensemble. Donc, on aime bien les belles histoires aussi.
Alors, je rassure les fidèles de Pékin Express, il y a des nouveautés, mais on retrouve bien les invariants de l'émission, les potes qui s'engueulent, les candidats qui ne savent pas parler anglais, à croire qu'on ne donne pas de cours d'anglais en France depuis 50 ans. Vous avez fait encore plus fort avec Florent et Noël, c'est les collègues catalans. Non seulement ils sont potes, non seulement ils s'engueulent, mais en plus, ils ne parlent pas anglais et ils s'engueulent à cause de ça.
Oui, ma, for you.
C'est possible?
Attends, t'énerve pas, deux secondes.
Mais le prochain village...
Arrête, on n'est pas sur la bonne route. Arrête.
Possible, et lungo, for you, et lungo.
Ok.
On n'est pas sur la bonne route, hein. Mais je crois que tu regardes sur la carte.
Oh Noël, j'en ai marre, tu me coupes la parole quand je parle. Je parle avec la fille, j'entends rien.
Allez,
Non, mais Noël, je parle, mais je galère en anglais, tu peux parler derrière. Déjà que j'ai du mal à parler anglais.
Mais non, mais faut pas
les parler en français.
Faut pas leur dire d'aller si loin.
Comme tu parles pas anglais, ne parle pas quand je parle.
C'est bon, Flo.
Ouais, c'est bon, mais tous les jours, je dois te le rabâcher.
J'adore ce que vous riez encore, vous connaissez les séquences,
ouais,
ça vous fait encore marrer.
Il y a un truc que j'adore dans ce programme, c'est d'envoyer sur ces routes des binômes qui n'ont pas forcément toutes les qualités pour être de grands aventuriers. Et je trouve que ça donne un spectacle formidable, et d'un, et de deux, que ça permet à tout le monde, devant son téléviseur, de s'imaginer à son tour participer à cette aventure. Et donc, envoyer des gens qui n'ont jamais voyagé, des gens qui ne sont pas sportifs, des gens qui ne parlent pas anglais, et ben, je trouve que ça permet d'avoir un programme qui nous ressemble un peu à tous. Donc, et ça donne des situations drôles. Il y a aussi beaucoup de moments touchants dans ce programme, avec ces gens-là aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est un cocktail qui...
Exactement. Et je vais raconter tout à l'heure les moments touchants, parce qu'il y a des images qu'on ne peut pas passer évidemment à la radio, mais que je pourrais raconter. Vous restez avec nous, Thierry Guillaume, vous êtes le producteur de Pékin Express, et on ne l'a pas encore dit, mais j'avais teasé là-dessus, le tournage a été dans des conditions dantesques. Vous nous raconterez comment et pourquoi on le sait un peu, c'est la crise du Covid, mais pas seulement. À tout de suite.
Heures, 11h. 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thierry Guillaume, c'est le producteur de Pékin Express au sein de la société Label Aventure qui produit Pékin Express. Pékin Express, la 14e saison qui démarre ce soir, c'est sur M6 à 21h. J'imagine que comme moi, vous avez lu ce matin Le Parisien.
Oui.
Il faut un papier sur le lancement de l'émission avec ce titre, Une saison en enfer. Vous avez affronté la pandémie, vous avez affronté un accident de voiture mortel. Si j'ose dire, comment s'est passé le tournage ?
Alors honnêtement, ça a été pour moi, c'est ma 11e saison en tant que producteur. Ça a été la saison la plus difficile à produire.
Oui, vous êtes sur place en tant que producteur ou vous n'êtes pas dans le bureau à Paris?
Non, je suis toujours sur place parce que c'est une grosse machine avec 100 personnes qui se déplacent tous les jours, une vingtaine de véhicules, et c'est une production qui se pilote à la minute parce qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand.
Donc, je vais donner les dates. Ça démarre le 28 février. La France, à l'époque, n'est pas encore confinée. Vous tournez en Ouganda. Les extraits qu'on vient d'entendre, ça se passe en Ouganda. Tout allait bien. Et puis, vous mettez le cap, ce qui était prévu, sur l'Éthiopie. Entre-temps, il y a le Covid qui arrive et déjà les locaux vous voient débarquer en criant Covid, Covid.
Ouais, ça c'est, on est déjà à la moitié du début du tournage parce que quand on arrive en Ouganda, il y a quasi rien. Quand j'arrive en Ouganda, j'apprends 3 jours plus tard que l'Ouganda ferme ses frontières aux Français parce que ça commence à arriver chez nous. On tourne en Ouganda, on est à peu près dans une bulle et puis on prend un avion pour aller en Éthiopie et là le Covid se répand à travers la planète, ça devient une pandémie mondiale et en arrivant en Éthiopie, on transfère vers le nord du pays et là on entend les gens qui nous voient passer, nous blancs, dans ce pays qui nous crient effectivement Covid, Covid, c'est en train la pandémie est en train d'envahir le monde.
Le 16 mars, Emmanuel Macron à Paris annonce le confinement, le territoire aérien, l'espace aérien français est fermé et là vous prenez une décision très difficile.
Oui, je décide de rapatrier tout le monde, en fait j'attendais ce moment-là, je me doutais que ça allait arriver, mais tant que cette décision n'était pas prise, je me disais on continue à tourner parce que je veux finir cette saison et puis quand Emmanuel Macron annonce la fermeture de l'espace aérien européen, je me dis je ne peux pas prendre le risque de bloquer 100 personnes en Éthiopie parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et là on décide d'arrêter le tournage, terrible décision, et d'affréter un avion pour rentrer tous à Paris.
Terrible décision également du point de vue économique parce qu'on ne savait pas combien de temps ça va durer. Le 13 juillet finalement la situation s'assouplit si j'ose dire, fin du confinement, vous reprenez le tournage, mais non pas en Afrique, direction la Grèce puis la Turquie. Pour quelle raison ?
Alors en fait, pour préparer un tournage, on a besoin de au moins 4 mois. On écrit, on repère avec des médecins, etc. Donc cette décision de partir tourner en septembre, on l'a prise au mois de mai. Au mois de mai, on n'avait encore aucune visibilité. J'ai simplement fait un pari en me disant, oui, j'entendais des gens qui disaient à la fin de l'été, probablement qu'il y aura une fenêtre de tir. Donc on a parié là-dessus. Et effectivement, on est reparti en septembre, mais 3 jours avant de partir, on se posait encore la question de savoir si on allait partir, parce que le nombre de cas remontait en France. Et comme vous l'avez dit, ça a des répercussions économiques. Quand on interrompt un tournage, il n'y a pas d'assurance.
Mais ce n'était pas possible de repartir, tourner en Afrique.
Non,
vous étiez obligé de changer
parce qu'au mois de mai, on ne savait pas comment la situation allait évoluer en Afrique. On se doutait que dans l'espace Schengen, ça serait un peu plus calme.
Alors, vous avez mis en place des règles sanitaires drastiques en Grèce et en Turquie. J'ai pas vu les épisodes, j'ai vu seulement le premier. Mais ce que j'ai lu, vous allez me confirmer ou non, les candidats portent vraiment des masques transparents toute la journée.
Non, pas toute la journée. En fait, ils ont des masques quand ils sont dans les voitures. Mais quand ils font des jeux, des épreuves en extérieur, ils n'ont pas de masque. Quand ils sont chez les locaux en extérieur, ils n'ont pas de masque. Ils respectent des distances de sécurité. Mais ils n'ont pas des masques en permanence.
Mais alors, déjà, c'est pas facile de trouver à dormir chez l'habitant, surtout quand on sait pas parler anglais et qu'on est en train de s'engueuler devant les gens. Mais là, ils doivent dormir chez l'habitant, ai-je lu, dans des chambres séparées.
Non.
Donc il faut un habitant qui gagne bien sa vie quand même.
Ils doivent trouver une chambre dans laquelle ils vont être les seuls à dormir, pas avec les locaux, et il faut qu'il y ait une fenêtre. Mais oui, le Covid a rendu l'aventure encore plus difficile pour nos candidats, mais ils ont réussi.
Mais tous trouvent toujours à dormir, ou parfois vous devez en rapatrier et les faire dormir dans une tente.
Non, ça n'existe pas. Quand ils ne trouvent pas d'endroit pour dormir, ils dorment dehors où ils peuvent, soit dans les jardins des locaux, c'est arrivé, soit carrément dans des parcs, etc., etc.
Comme si ça ne suffisait pas, le 21 septembre, sur une route de Turquie, 2 voitures de Pékin Express avec des candidats et des techniciens sont percutées par le véhicule d'un octogénaire qui décède à son arrivée à l'hôpital.
Plus tard, oui.
Que se passe-t-il ensuite ?
Alors là, quand l'accident se produit, évidemment, la première réaction, c'est de... On est préparé à ça, on y pense, parce que c'est le plus gros risque qu'on a sur ce tournage. On a, comme je vous le disais, 100 de personnes en voiture, 6 heures ou 7 heures par jour. Donc les statistiques font que ça devait nous arriver un jour. Là, il y a évidemment, on traite l'accident immédiatement, nos médecins interviennent, on envoie tout le monde à l'hôpital, on arrête le tournage pendant 12 heures, et le lendemain matin, en fait, les médecins nous ont donné des nouvelles de nos techniciens, de notre binôme de candidats, et comme ils étaient tirés d'affaire, on a décidé de reprendre le tournage.
Comment vous avez annoncé ça dans les émissions? Moi, j'ai pas vu les futurs épisodes, c'est déjà monté? Vous ne dites pas qu'il y a eu mort d'homme, ou vous le dites?
On le dit, on raconte tout, on est absolument transparent dans ce programme, et on raconte quand ça s'est passé, comment ça s'est passé, quelles ont été nos décisions et tout ce qui est arrivé, on raconte.
Vous êtes le producteur chez La Belle Aventure de Pékin Express. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aura une saison 15 ou est-ce que vous attendez les audiences demain matin? Je vois que ça vous fait sourire cette question.
Oui, parce que la question arrive tous les ans.
Évidemment.
Alors, je travaille déjà sur une saison 15. Elle n'est pas encore confirmée par la chaîne qui va effectivement attendre quelques épisodes pour confirmer la saison. Mais oui, j'y réfléchis déjà. Et j'y réfléchis aussi avec les contraintes sanitaires, en essayant déjà d'anticiper les choses.
Ouais. Il faut faire quelle audience pour qu'il y ait une nouvelle saison?
Alors ça, je ne vais pas donner de chiffres, mais l'année dernière, on était à 13 en 4 ans et plus, et 23% en ménagère. Il faut qu'on soit à ce niveau-là, ou un petit peu en dessous, ou un petit peu au-dessus. Ça serait très bien pour nous.
Merci beaucoup Thierry Guillaume.
Merci.
On entend le générique de Pékin Express, dont la 14e saison démarre ce soir sur M6 à 21h. Et vous êtes le producteur de l'émission. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain, avec un documentaire en hommage aux agriculteurs, et Bertrand Chameroy pour son écran de veille, avec un air de déjà-vu. Notre invité, c'est Éric Emmanuel Schmitt, le romancier, écrivain, dramaturge, pour La Traversée des Temps, une grande série très ambitieuse de romans sur l'histoire de l'humanité. 8000 ans d'histoire en 8 tomes. Et puis, dans les indispensables, en revenir sur la fin du duo Daft Punk, pionnier de la French Touch. Et c'est Angèle Châtelier qui va nous dire quel morceau écouter. Elle va nous faire une sorte de best-of. Et puis, une fabrique d'aliens qui débarque dans une nouvelle série d'animation pour adultes. C'est aussi une nouvelle chaîne, elle s'appelle Star. Et c'est lancé par Disney+ aujourd'hui. À tout de suite.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.